Interview.
2 jours.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDIWA sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi dans le studio, Alain Matron, vice-président au Conseil Général en charge de la vie des collégiens, de l'éducation et du transport, président de la communauté de communes du DIWA et aussi conseiller municipal de Luz-la-Croix-Haute. Monsieur Matron, bonjour.
Bonjour.
Alors je vous ai invité pour parler un petit peu d'éducation puisque c'est une de vos casquettes. Et plus particulièrement, j'aimerais qu'on aborde, si vous le voulez bien, des questions en rapport avec une actualité du moment, à savoir l'aménagement des rythmes scolaires. Et puis après, peut-être votre avis sur l'efflorescence, la foison d'écoles alternatives qui naissent à droite et à gauche. Et un petit point sur les RASED. Ça ne vous pose pas de problème, je suppose.
Très bien.
En tant que béotien, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler un peu de l'aménagement des rythmes scolaires? Peut-être faire un petit exposé didactique pour nous rappeler ce qu'il en est et voir comment ça se passe dans le DIWA.
Très bien, je dirais la volonté du gouvernement par rapport au rythme scolaire est assez claire. Donc l'école primaire française n'obtient pas les résultats que l'on aimerait qu'elle obtienne. Donc il y a un certain nombre de moyens qui sont mis sans que pour autant les résultats soient très bons comparés à d'autres pays. Donc, notamment, si l'on regarde la journée de l'écolier actuellement, c'est une journée très chargée. Donc, le nombre de jours d'école annuel n'est pas très important. Et par contre, ces journées sont très chargées. Donc, l'idée du gouvernement, c'est d'alléger cette journée de classe en passant sur 9 demi-journées. Donc, d'étaler le temps de classe pour que la journée de classe soit moins importante. En même temps, il y a un besoin d'éducation et puis il y a un besoin de prise en charge de l'enfant. Donc pour que l'enfant soit toujours pris en charge sur la même durée dans la journée pour permettre tout bêtement aux parents de se rendre au travail et d'organiser leur propre journée, le gouvernement a demandé aux communes de prendre le relais pour 3 quarts d'heure par jour en moyenne, mais c'est pas toujours ce que les communes ont choisi, c'est 3 heures sur les 4 journées. Donc pour ces 3 quarts d'heure, elle a demandé aux communes de prendre le relais et donc d'organiser un accueil classiquement appelé périscolaire puisque c'est autour de l'école.
Concrètement, comment ça se passe? Ces 3 quarts d'heure prises en charge théoriquement par les communes, y a-t-il des communes qui pourraient avoir des soucis de payer des animateurs? Et là, il y aurait encore une fracture dans l'éducation. Il y a des communes qui pourraient éventuellement le pouvoir et d'autres pas.
Alors dans l'éducation, il n'y a pas de fracture, c'est-à-dire que la base de 24 heures semaine éducative supportée par l'État est toujours la même. Ce sont les 3 heures de fin de journée qui sont reportées au mercredi matin. Donc l'État ne transfère pas une charge, elle assume toujours la même charge éducative. Elle demande simplement aux communes de venir en complément. Est-ce que ça sera pareil dans toutes les communes? Bien entendu, la réponse est non. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pareil dans toutes les communes? La réponse est non. Il y a des communes qui actuellement, sans aucune obligation de leur propre initiative, ont déjà organisé du périscolaire, y compris le mercredi matin, le soir jusqu'à 17, voire 18 heures pour certaines communes. Donc on a déjà une situation assez inégalitaire d'une commune à l'autre. Ce que demande le gouvernement, sans obligation, il n'y a pas obligation de par la loi, mais ce que demande le gouvernement, c'est qu'effectivement il y ait une prise en charge minimum, une base commune, je dirais, sur chaque collectivité. Cette base est pour qu'il y ait une prise en charge jusqu'à 4h30, c'est-à-dire jusqu'aux horaires habituels pratiqués maintenant par l'école.
Concrètement, y a-t-il des communes qui auraient des soucis pour payer?
Concrètement, toutes les communes ont des soucis, enfin, au sens où elles ont des choix à faire. Quand on bâtit un budget communal, il y a beaucoup de choses que l'on aimerait faire et il y a ce que l'on va faire parce qu'on a les moyens de le faire. Donc effectivement, les communes font des choix, qu'elles soient grandes ou petites. La ville de Die comme la commune de La Chandiwa font des choix, ne font pas tout ce qu'elles souhaiteraient faire. Et elles auront un choix à faire, éducatif, Voilà, je pense que ça fait partie du débat démocratique dans les conseils municipaux. Les communes s'occupent correctement de l'assainissement, des clubs de personnes âgées. On leur demande de faire un effort vis-à-vis des enfants. Ça me paraît pas déplacé, bien au contraire, que effectivement ce périscolaire, en tout cas que chaque commune ait une attention minimum par rapport aux enfants de l'école primaire.
Oui, y a-t-il des communes qui renaclent quand même concernant ces obligations ?
Certaines communes renaclent. Alors, il y a différentes attitudes. Hein, quand il y a des modifications, certains pensent que les Français sont par essence conservateurs. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, il y a toujours plusieurs positions. Il y a des communes très légitimistes qui disent « on nous demande de le faire, eh bien on va le faire ». Voilà, avec plus ou moins d'enthousiasme. Il y a des communes qui sont vraiment partie prenante et qui pensent qu'effectivement il y a un vrai enjeu éducatif global et qui sont plutôt satisfaites que l'État leur demande leur concours. Et puis il y a des maires qui iront un petit peu plus à reculons parce que effectivement c'était pas leur souci pour l'instant et ils n'ont pas envie d'avoir un souci supplémentaire.
Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type d'activité périscolaire à proposer à ces enfants ?
Je pense que je vais répondre un tout petit peu différemment. D'abord, ce qui me paraît important, c'est qu'au niveau du DIWA, on a souhaité se donner l'occasion de réfléchir tous ensemble. Donc l'ensemble des communes, des 17 écoles, mais pas que, puisque les communes qui n'ont pas d'école participent aux frais dans les communes qui ont des écoles. Donc ça nous paraissait intéressant de faire réfléchir tout le monde en même temps. Donc on a défini 7 bassins de vie scolaire. Dans chacun de ces bassins de vie scolaire, se sont réunis des parents d'élèves, des enseignants et des élus qui ont réfléchi ensemble en 3 phases. La première phase, c'était qu'est-ce que l'on a envie de faire de ces nouveaux temps périscolaires ? Quel contenu on a envie de leur donner ? Quelle ambition on a envie de leur donner ? Ça nous paraissait important avant même l'organisation. Dans le deuxième temps, c'est quelles ressources locales on a. On ne va pas aller chercher à Valence ou plus loin des ressources que l'on n'a pas. Et dans un troisième temps, comment on s'organise, c'est-à-dire tout bêtement l'emploi du temps, quand est-ce qu'on place ses heures, comment on fait le lien avec les transports, etc. Donc il y a eu quand même 3 réunions sur 7 bassins, 21 réunions qui ont réuni plusieurs centaines de personnes qui ont réfléchi. Donc ça c'est intéressant pour aboutir à une, dans le premier point, quelle ambition on donne à une charte. Qui souligne 2 choses. C'est d'abord que l'ambition du DIWA, c'est que ces temps soient gratuits sur l'ensemble des communes. Donc on a réintroduit sur ces temps la notion de gratuité et de laïcité pour qu'effectivement les contenus soient un petit peu bordés et qu'ils soient accessibles, même sur le plan financier, à tous. Donc ça nous paraissait extrêmement important. Cette charte parle aussi de temps choisi par l'enfant, c'est-à-dire qu'on fait une différence entre un temps scolaire où il y a des apprentissages avec des obligations pour arriver à des résultats et là des moments beaucoup plus choisis par l'enfant, qui ne soient pas des moments d'apprentissage obligatoires, plus dans l'idée de moments de découverte ou de détente ou de repos ou de loisirs. Donc ça, c'était assez fondamental et ça répond de fait à une critique que l'on entend assez souvent au niveau national, qui est la surfatigue de l'enfant. Donc l'idée n'est pas d'amener des activités complémentaires en fin de journée qui demanderaient des efforts, soit physiques, soit intellectuels, d'adaptation de l'enfant, mais bien de lui laisser un libre choix et qu'il ait un temps riche, avec un environnement riche, sur le plan des jeux, sur le plan des livres, sur le plan de la musique, sur le plan artistique, culturel, sportif, mais choisi, et qu'il ne soit pas en suractivité pour arriver chez lui avec finalement une journée toujours aussi longue, toujours aussi sollicitante sur le plan intellectuel, ce qui serait à l'encontre même de l'esprit de la réforme.
Et alors justement, depuis combien de temps ce processus de concertation a lieu dans le DIWA ?
Donc, dans le DIWA, l'année dernière, vous savez que ces rythmes scolaires sont appliqués depuis la rentrée scolaire dans certaines communes ou à la rentrée prochaine dans les autres. Donc quand la loi de refondation de l'école et surtout l'arrêté ministériel qui a mis en place ces nouveaux rythmes a été promulgué, nous avons souhaité au niveau du DUA prendre le temps. Ne pas l'organiser dès la première année, mais prendre le temps de cette réflexion. Donc les premières réunions de réflexion ont eu lieu il y a maintenant plus d'un an, hein, donc au mois de on était donc au mois d'avril, mai l'année dernière, les premières rencontres au mois de juin et ainsi de suite. On a enchaîné comme ça des temps par petits groupes et des temps collectifs, notamment avec l'État, avec Jeunesse et Sport, pour comprendre aussi quel était le cadre réglementaire, hein, parce que les mairies vont bien rentrer dans un cadre extrêmement réglementaire. Quand on s'occupe d'accueil de jeunes, il y a un cadre réglementaire qui est un tout petit peu contraignant, mais en même temps qu'il se comprend, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Hein. Il faut que les animateurs soient diplômés, il faut qu'il y ait un certain nombre d'animateurs pour un certain nombre d'enfants, etc. Donc il y a eu tous ces rappels réglementaires, puis la réflexion. Donc c'est un processus qui a duré pratiquement un an, 9 mois, pour aboutir à un projet éducatif d'IWA, hein, donc un document co-signé par l'ensemble des maires qui ont une école, par le président de la communauté de communes, et que nous porterons devant l'éducation nationale, et j'espère nous signerons d'ici, enfin en début d'année, avec le préfet ou la directrice académique.
Ce document a-t-il été rendu public, ou est-ce que c'est un document de travail interne ?
Alors, pour l'instant, il n'est pas tout à fait achevé. Donc, on a choisi de laisser beaucoup de liberté d'organisation, donc... Chaque école n'aura pas les mêmes horaires, n'aura pas les mêmes activités, n'aura pas... Voilà, on a laissé beaucoup de souplesse pour qu'on puisse s'adapter au mieux à l'environnement. Donc les communes sont en train de répondre à cette partie un petit peu de calage individuel. Une fois que chaque commune aura répondu, nous le ferons remonter au niveau de l'académie. Et quand l'académie aura donné, je dirais, son visa ou son pré-visa, ce sera public. Mais... je dirais, il n'y a absolument aucun secret. Et déjà, pour tous ceux que ça intéresse, il est consultable à la communauté de communes comme tout document de travail des collectivités locales.
Donc avec comme objectif que cela démarre l'année prochaine ?
L'objectif est un peu l'obligation, hein, puisque il y avait 2 ans pour démarrer, mais la deuxième année est obligatoire. C'est effectivement la mise en place dès la rentrée. Il reste pour certaines communes un petit peu de calage, notamment des transports scolaires. Hein. Puisqu'il faut, il faut emboîter tout ça, il faut que les enfants puissent rentrer chez eux à l'issue de ces temps périscolaires. Le choix du département a été de permettre à tous les enfants d'accéder à ces temps périscolaires. Donc le ramassage se fait à l'issue, donc à 4h30, à l'issue du temps périscolaire.
Comme petite conséquence, qu'il y aura un double ramassage scolaire, non ?
Alors, il n'y aura pas de double ramassage scolaire, avec la conséquence qu'il y a des enfants plus captifs que d'autres, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que les enfants du centre-ville de Die, si le temps scolaire se termine à 15h45, pourra rentrer chez lui et ne pas aller au temps périscolaire jusqu'à 16h30. Alors qu'un enfant qui est accompagné, enfin ramassé par le ramassage scolaire, lui devra attendre le quart. Donc il ira de manière plus systématique au temps périscolaire. Donc c'est vrai qu'en fonction du lieu où on habite, on n'aura pas tout à fait le même choix. Il était difficile d'organiser et assez inconcevable sur l'aspect gestion de l'argent public d'organiser 2 tours de ramassage scolaire.
Je suppose. Alors... Dans le chapitre des animateurs que vous avez un petit peu abordé, est-ce que ça ne va pas être compliqué dans des zones avec une densité de population faible de trouver des animateurs disponibles pour des temps de travail quand même somme toute assez limités ? Surtout qu'il vient d'être interdit de faire des temps partiels de moins de 24 heures, si je ne m'abuse.
Alors, c'est l'inquiétude, en tout cas, qui est première des maires, quand disant, bon, voilà, qui on va embaucher, comment quelle complémentarité va se faire, avec quelles compétences, puisque les maires ont aussi ce souci qu'il y a un apport et que ce soit un travail de qualité d'encadrement des élèves. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que les communes qui se sont lancées cette année, dès la rentrée dernière, n'ont pas eu cette difficulté. C'est-à-dire que tout le monde a trouvé. Voilà. En sachant qu'il y a différents niveaux de compétences à avoir. C'est-à-dire que si effectivement on est sur une découverte sportive, on va prendre classiquement quelque chose qui fait un petit peu peur parce qu'il y a de la technicité, comme l'escalade par exemple. On est bien entendu là sur un diplôme d'État avec quelqu'un d'extrêmement compétent et ça peut être compliqué. Et effectivement, il faudra profiter des opportunités et on a sur le territoire ici un guide de haute montagne, ici un moniteur d'escalade, ici un moniteur de VTT. Il faudra utiliser ses capacités et probablement pas les mêmes sur l'ensemble du territoire. Et puis, il y a des personnels beaucoup plus polyvalents, du type centre de loisirs, qui sont capables d'encadrer des enfants, de leur proposer des activités de découverte culturelle ou sportive, de les encadrer dans des jeux didactiques, etc. Et ça, le territoire est bien pourvu, puisqu'on a quand même pas mal de centres de vacances, de centres de loisirs, etc. Donc, ce sont des personnels qui existent.
Oui, mais revenons à ces pauvres animateurs. On va leur demander de travailler combien d'heures par semaine? Ils vont immobiliser toute leur semaine pour un nombre restreint d'heures. C'est pas facile à gérer, ça non plus.
C'est pas facile à gérer. Alors, certains travaillaient mercredi matin, par exemple, dans les centres de loisirs. Les enfants seront à l'école, donc ils retrouveront ces heures. Donc, ceux qui travaillent déjà dans les centres de loisirs, on est bien sûr du complément. Voilà. Parfois, ça sera du complément sur les assistantes maternelles qui travaillent dans les écoles maternelles. Voilà, on est bien dans des activités complémentaires. Ça peut aussi être des... Bon, j'ai une ou deux candidatures spontanées en tête, des mères de famille qui ne travaillent pas, hein, qui sont plutôt à la maison et qui ont envie de reprendre... Un petit travail, qui sont prêts à faire du travail, il est vrai, un peu décousu, hein, puisque trois quarts d'heure par jour, même si certaines communes ont choisi, plutôt que trois quarts d'heure, de faire une heure, une demi-heure, voire pour deux communes au moins du secteur, ont demandé une dérogation pour pouvoir cumuler une heure et demie deux fois au lieu de faire quatre fois trois quarts d'heure.
Et j'en reviens encore à cette histoire d'égalité de traitement entre les communes, mais c'est vrai que les activités que proposerait par exemple un petit village comme Borrières ou Val-Maravel, ce ne sera pas la même chose que les activités proposées par ne serait-ce que Die ou Valence par exemple. Hein.
Ça ne sera pas la même chose, ça je partage votre avis. Est-ce que la plus-value éducative sera moins importante ? Je vous propose de nous retrouver au mois de novembre ou après quelques mois de fonctionnement pour le voir. Je pense qu'on a des richesses dans les petites communes, des richesses humaines qui viendront là autour de l'école, dans le périscolaire, dans le temps périscolaire et qui sont extrêmement intéressantes. Je ne suis pas sûr que ce soit plus compliqué... sur la classe unique de Boulk ou de trouver 22 intervenants en même temps de qualité à Die. Les difficultés ne vont pas être les mêmes, les richesses ne vont pas être les mêmes. Certes, il y aura de la différence, mais je pense que personne ne souffrira de la comparaison.
Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire concernant l'aménagement des rythmes scolaires ?
Je pense que ce qui est important de souligner, c'est que partout ça a été mis en place, l'aménagement du temps scolaire. Tout le monde dit que c'est bénéfique. C'est-à-dire que même quand il y a quelques difficultés à aménager le périscolaire, les enseignants reconnaissent que le temps scolaire, c'est plus...
Alors, je vous prie de m'excuser de prêter attention aux rumeurs ou voire aux mécontents, mais on entend quand même pas mal de gens qui se plaignent. Effectivement, vous l'avez noté tout à l'heure, de la surfatigue des enfants. Alors, est-ce une période d'adaptation nécessaire parce que c'est un changement important ? Est-ce que vous pensez que ça va se lisser dans le temps ? Est-ce que ça sera bénéfique pour les enfants ?
D'abord, j'espère qu'on échappera à ça sur le secteur du Diois pour avoir réfléchi au contenu. C'est-à-dire que certaines communes qui se sont lancées un peu vite étaient un peu dans un esprit de compétition. Je vais faire mieux, je vais proposer mieux que la commune d'à côté ou je vais leur montrer ce que je suis capable de proposer. Donc on a proposé beaucoup d'activités et effectivement on a pu aller vers une surfatigue. Je crois que ce que l'on a essayé de montrer sur le secteur du Diois, c'est que l'intérêt, c'était de laisser du temps à l'enfant, du temps de choix, du temps d'autoconstruction, du temps libre, à la limite, pour qu'il puisse faire des activités choisies. Donc, j'espère que, du coup, cette suractivité sera pas trop ressentie. Je fais partie du comité de suivi des rythmes au niveau départemental et au niveau de l'académie. Donc, je me suis rendu plusieurs fois à Grenoble sur ce sujet-là. Et les enseignants, tous syndicats confondus, soulignent le gros intérêt au niveau du temps scolaire. C'est-à-dire que déjà, et c'est un bon point, le fait de retrouver 9 demi-journées, je dis bien retrouver puisque c'était le cas il n'y a pas si longtemps que ça en arrière, ces 9 demi-journées, d'avoir des temps plus courts dans la journée, les enseignants apprécient énormément. Après, je pense que là où effectivement on peut se poser quelques questions, c'est quand la famille est en capacité de s'occuper de l'enfant en fin de journée et quand elle n'est pas en capacité de le faire, on n'aura pas tout à fait les mêmes conditions. Voilà. Mais actuellement, c'est bien le cas. Il y a des enfants en ville qui, après l'école, vont déjà dans du périscolaire, voire sont récupérés par des nourrices, jusqu'à ce que les parents travaillent. Enfin, je dis en ville, mais jusqu'à ce que les parents rentrent du travail, en ville ou pas en ville, hein. Quand les deux parents font 8 heures de travail dans la journée, il faut que... Voilà, là, c'est pas l'utopie, c'est très pragmatique, mais la journée de l'enfant, elle est quand même extrêmement liée à la journée de la famille et à l'organisation familiale.
Alors, concernant ces fameux animateurs, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez eu des candidatures spontanées. Est-ce qu'on pourrait envoyer un appel sur les ondes pour dire aux gens qui souhaiteraient éventuellement avoir un petit boulot complémentaire de faire des candidatures spontanées ?
Bien sûr, on peut toujours faire appel dans les ondes. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup, puisque médiatiquement, quand même, cette problématique des rythmes scolaires a été extrêmement mise en avant. Donc, les gens sont bien au courant. Mais oui, voilà, parlez-en à vos maires, parlez-en dans vos mairies, parlez-en aux enseignants. Il peut y avoir, on ne l'a pas dit tout à l'heure, hein, mais il peut y avoir un certain nombre de bénévoles qui viennent aussi intervenir dans les écoles. Ils ne doivent pas dépasser, je crois, 20% des effectifs, mais ça peut être intéressant. C'est-à-dire que si vous avez envie d'apporter, si vous avez une passion, un jeu, si vous aimez lire des histoires, lire des contes, eh bien, vous pouvez apporter votre petite pierre à l'édifice et venir à la fois enrichir le temps périscolaire et puis vous faire plaisir parce que être au contact des enfants, c'est toujours un moment agréable.
Mais concrètement, vous avez suffisamment d'animateurs ou vous en recherchez encore ?
Concrètement, je ne suis pas maire, je ne recrute pas. Voilà. Je pense que dans une commune où il faut un animateur et à 10 ou je crois que c'est 22, le chiffre, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je ne sais pas si M. le maire de Dias c'est 22 animateurs. Voilà, je pense qu'il y a encore, du besoin. Ouais.
Très bien. Bon, on ne va pas épuiser le sujet. Puis de toute façon, je ne suis pas un spécialiste et il ne faut pas épuiser nos auditeurs avec des sujets trop compliqués. Donc, je vous propose de passer au deuxième sujet, à savoir justement ce foisonnement d'écoles alternatives qui, devant une lourdeur de l'éducation nationale ressentie, hein, je ne sais pas si c'est exact, hein, ont décidé de créer des écoles utilisant souvent des méthodes autres, Montessori, Freinet ou d'autres. Qu'en pensez-vous, Monsieur Mathéon ?
Alors, je pense que l'innovation, la réflexion et l'innovation est toujours intéressante dans quelques domaines que ce soit, et l'éducation en fait partie. Il y a toujours eu des gens qui réfléchissent. Les deux noms que vous avez cités, Montessori et Freinet, je ne vais pas vous donner les dates de naissance, mais ce sont des gens qui ont travaillé il y a déjà pas mal de temps sur l'éducation. Pour Freinet, c'est un courant de l'école publique, laïque, un peu votre précurseur, hein, lui utilisait plus l'imprimerie que la radio, mais voilà, des moyens de communication modernes, donc des principes coopératifs. Voilà. Donc on a là rien de nouveau. On a peut-être un manque de confiance en l'éducation nationale pour laisser cette expérimentation ou cette liberté pédagogique s'exprimer. Et je pense que beaucoup d'enseignants, s'ils sont à l'écoute, se disent mais moi aussi j'ai ma méthode, moi aussi j'ai une méthode. Elle s'appelle parfois Freinet, elle s'appelle parfois... voilà. Et bon, je suis enseignant hein, de formation. On a beaucoup de liberté dans nos classes. Beaucoup, beaucoup de liberté. On n'a pas un inspecteur de l'éducation nationale sur le dos tous les jours. Et le seul regard que l'on a, c'est le retour et le regard des enfants. Voilà. Mais en conscience, on peut utiliser beaucoup de pédagogies différentes dans les classes de l'école publique, et il y a beaucoup d'innovations dans les classes de l'école publique. Certains se trouvent trop à l'étroit, enseignants, et décident effectivement de monter des classes privées. À côté, bon, bah, c'est le libre choix. Je pense que l'école est libre, comme la presse, et il y a possibilité de le faire. Après, la deuxième phase, c'est la reconnaissance de ces écoles privées qui peut poser problème, puisque notamment il y a des lois. Il y a la loi Debré, la loi Fallou, hein, qui ont reconnu l'école privée, qui était essentiellement confessionnelle jusque-là. À un moment donné, l'État donc, a estimé que ces écoles étaient utiles à la prise en charge républicaine de l'ensemble des enfants. On n'est plus du tout dans ce contexte-là d'après-guerre. Hein, il y a suffisamment d'écoles publiques. Donc effectivement, on est plus dans une innovation pédagogique. Hein, mais je redis bien, parfois on redécouvre des pédagogies qui sont extrêmement anciennes, hein, ou des matériels, puisque Montessori s'appuie aussi sur toute une base de matériel didactique. Voilà, moi, il n'y a rien qui me choque dans tout ça. Je pense que ce qu'il faut faire attention, c'est de ne peut-être pas fragiliser les écoles publiques. Hein. On a vu parfois une école publique perdre une classe, perdre un enseignant par manque d'élèves. Voilà, en sachant quand même que pour les parents, la garantie de l'école publique, c'est la garantie d'un enseignement gratuit, voilà, laïque, libre et gratuit. Donc c'est quand même aussi quelque chose d'intéressant. Les écoles privées dans la vallée ont quand même des coûts d'inscription qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses.
Alors, je vous répondrai par deux petits proverbes. Un anglais que tout le monde connaît, c'est « Small is beautiful ». Et puis, une réflexion d'Hélène Carrère-Danfkos, une historienne spécialiste de l'URSS qui avait beaucoup étudié l'URSS et qui avait fait cette constatation prouvée, c'est que plus la structure était grande, plus elle favorisait la médiocrité. Et elle comparait à l'époque l'URSS et la Suisse en disant qu'effectivement, dans la Suisse, les citoyens étaient moins éloignés du pouvoir qu'en URSS et que donc il y avait plus de capacité d'initiative, voire de mobilité. Et c'est peut-être pour ça que les écoles alternatives de nos jours pourraient être les poissons pilotes, effectivement, que cette grosse machinerie qu'est l'éducation nationale, j'entends bien ce que vous me dites, que dans l'éducation nationale, il est possible de proposer des initiatives, d'avoir un certain degré de liberté, mais c'est quand même une grosse machine.
Alors l'éducation nationale est une grosse machine, mais les écoles du DIWA sont de toutes petites machines. On est un lieu dans la Drôme où il y a le plus d'écoles à une seule classe, hein, une classe unique, ou de toutes petites écoles. Alors, je ne sais pas l'échelle de quand est-ce qu'on est gros, quand est-ce qu'on est petit, hein, c'est toujours difficile, mais je connais des écoles privées sur la vallée qui sont plus grosses que des écoles publiques. Donc la taille n'est pas une bonne référence. Après, c'est la taille de l'éducation nationale, mais je le redisais tout à l'heure, écoles publiques ou privées, une fois qu'elles sont reconnues par l'éducation nationale, ont le même cadre, hein, donc ont absolument l'obligation de présenter les mêmes programmes, d'avoir les mêmes résultats, etc. Hein. Donc quand on parle école privée, et tout à l'heure on parlait de multiplicité, il y a des écoles privées qui se donnent le nom d'écoles privées, mais qui pour la collectivité, ne sont pas des écoles au sens où on l'entend. C'est-à-dire que ce sont des regroupements de parents qui confient leurs enfants à un éducateur, mais pour l'État, c'est de l'enseignement à la maison, de manière regroupée, mais c'est de l'enseignement à la maison. On est école privée à partir du moment où on a une reconnaissance de l'État, avec un contrat avec l'État, soit un contrat d'association, soit un contrat simple, qui sont, à partir de ce moment-là, on rentre dans des catégories d'écoles et on obtient d'ailleurs des financements d'État ou des collectivités et ou des collectivités locales, parce qu'on est, on est reconnu, on apporte au niveau de l'État un service qui est plus public, mais un service éducatif.
Et cet agrément est compliqué à obtenir ?
Alors cet agrément est donné par le ministère, est demandé au niveau du rectorat, est donné par le ministère. Et oui, je pense assez compliqué à obtenir. Il y a un certain nombre de garanties. Il y en a peu qui sont données. Et puis les écoles auxquelles vous faites référence, ça représente au niveau national un très 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 faible pourcentage, hein, puisque pour l'instant, l'école privée, c'est essentiellement des écoles confessionnelles. Et je dirais, dans le monde du privé, c'est eux qui font un petit peu l'ambiance, hein, puisque c'est la majorité.
Merci Monsieur Matteron pour toutes ces précisions et votre sentiment à ce propos. On va peut-être terminer avec une question que nous avions déjà abordée il y a un an et demi dans nos ondes, à savoir le sort des Razettes, qui concernait d'ailleurs plus particulièrement votre canton, puisqu'il y avait un poste de Razettes qui était en danger. Y a-t-il du nouveau à ce niveau-là ?
Je crois qu'il y a du nouveau de manière générale, c'est-à-dire quand même que au niveau éducation nationale, on a arrêté l'hémorragie. Je pense que c'était le premier point. Il fallait arrêter de supprimer des postes systématiques. Hein. À chaque rentrée, les élus se mobilisaient, que ce soit les postes en général, les postes de RAZ. À cette rentrée, on avait des postes en plus dans le département et on avait une stabilité sur les RAZ. Donc je crois que la première phase... Il ne faut jamais crier une victoire, mais la première phase, arrêter l'hémorragie, on y est. La deuxième chose importante, c'est que le gouvernement et le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, a reconnu l'intérêt des RAZ. Et on est passé d'une logique où l'enseignant... plus ou moins dit, mais où on demande à l'enseignant de faire du soutien scolaire et de trouver des solutions un petit peu tout seul dans sa classe. Et de nouveau, on reconnaît qu'on a besoin de spécialistes, hein, puisque les RAZ, on est bien dans des spécialistes de différentes branches, mais de spécialistes pour venir dénouer des problématiques liées à l'école. Alors, c'est des problématiques psycho-socio-éducatives, hein, voilà, liées à l'école. Donc, cette reconnaissance, c'est quelque chose d'important. Donc là, il y a une reconstruction des RAZ, hein, qui avait quand même été mise à mal. Il faudra un certain temps, puisque même si le budget de l'éducation nationale est celui qui a le plus profité, je dirais, alors que les autres sont toujours un peu en restriction, en diminution, hein, mais voilà, on est dans une phase pour l'instant de stabilité. Voilà. Et de reconnaissance, que je trouve assez fondamentale.
Et alors, dans le DIWA, y a-t-il du nouveau ?
Donc, dans le DIWA, là, il est difficile de faire le point aujourd'hui. Hein. Le CDEN, donc les effectifs, donc la répartition, en fait, si vous voulez, au niveau du rectorat, il y a un certain nombre de postes. Et ces postes sont après partagés dans les départements. Et au niveau du département, donc la directrice académique fait des affectations. Ça se fait au mois de février. Donc là, on est dans la préparation. J'espère que ça se passera aussi bien que l'année dernière, où effectivement, il n'y a pas eu de très très gros problèmes et où la directrice académique avait les moyens de répondre aux attentes un petit peu partout sur le territoire. Voilà. Donc ma réponse n'est pas très précise, mais on est un peu trop en amont par rapport à cette répartition.
Très bien, mais Monsieur Matteron, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions.
Merci à vous.
Et je vous souhaite une bonne continuation et une bonne année même aussi.
Bonne année.
Merci, au revoir.
Interview. 1, terre.
Hey, the bird.
L'interview du jour.